Europe Soir. Céline Géraud.
Europe Soir, jusqu'à 20h, ne bougez pas, on s'occupe de tout au programme de cette prochaine demi-heure. Eh bien évidemment, on va échanger et débattre autour du projet de loi sur le pouvoir d'achat à l'Assemblée nationale avec plus de 1000 amendements à la clé. Un projet qui va forcément se heurter à des oppositions. La coalition de gauche et les LR montent déjà au créneau pour proposer de nouvelles mesures. On en parle ce soir avec Sébastien Meurant, sénateur du Val-d'Oise et membre de la commission des finances au Sénat. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là en direct, en forme, tout bronzé, en oui, forme olympique.
Le soleil brille dehors.
Le soleil brille, il fait très chaud effectivement. Et puis Jacques Serret, journaliste au service politique d'Europe 1. Salut Jacques, merci d'être là. Alors, un plan à 20 milliards d'euros, c'est une semaine bien risquée et décisive pour la majorité présidentielle. Il y a 5 jours, rappelez-vous, le projet de loi sanitaire a été retoqué en partie par l'opposition RN et NUP. Et c'est un nouveau test pour le gouvernement d'Elisabeth Borne. Alors, on va tout de suite partir au Palais Bourbon, retrouver Alexandre Chauveau qui suit ces débats pour nous, pour Europe 1. Que peut-on retenir de ces premières heures d'échange, Alexandre ?
Écoutez, tout avait plutôt bien commencé. Bruno Le Maire avait fait part de sa volonté de trouver des compromis avec les différentes oppositions. Mais lorsque celles-ci ont pris la parole, elles ont plutôt chargé le projet de loi présenté par le ministre des Finances. Marine Le Pen notamment, tout en voulant apparaître comme une opposition responsable, n'a pas manqué de mettre en avant les contradictions supposées du gouvernement qui, selon elle, se serait ralliée aux positions qu'elle défendait pendant la campagne présidentielle.
Nous voterons l'essentiel des mesures que vous proposez. Mais nous les voterons en disant toute la vérité aux Français et en faisant des propositions concrètes pour améliorer le texte. Oui, il faut indexer les retraites, mais c'est vous qui, depuis 5 ans, reniez le pouvoir d'achat en les sous-indexant. Oui, il faut dégeler le point d'indice, mais cela fait 10 ans que les fonctionnaires sont spoliés. Oui, il faut protéger les Français des hausses de gaz et d'électricité, mais c'est vous qui avez affaibli notre indépendance énergétique.
Voilà Marine Le Pen à qui Bruno Le Maire a répondu il y a quelques instants en tentant de démontrer selon lui l'inefficacité et le coût trop important de ces mesures, notamment la baisse de la TVA à 5,5% sur les prix du carburant. Alors dans les coulisses de l'Assemblée, la plupart des députés ont plutôt bon espoir que le texte soit adopté, mais chacun essaye de pousser au maximum en faveur de ces amendements. Les premiers votes doivent avoir lieu ce soir dans l'hémicycle.
Merci Alexandre Chauveau en direct du Palais Bourbon. Je me tourne vers vous Sébastien Meurant, sénateur du Val-d'Oise, membre de la Commission des finances au Sénat. Ces débats pendant cette semaine risquent d'être effectivement mouvementés. L'opposition, même si on est tous d'accord qu'effectivement ces mesures, les Français les attendent, en ont besoin, il y a quand même énormément d'amendements et de contre-propositions, j'ai envie de dire.
C'est le jeu de la démocratie, d'un pouvoir qui a perdu les pleins pouvoirs. Le problème, c'est qu'on ne traite pas les causes. Et les causes, nous, au Sénat, par exemple, nous n'avions pas voté le budget 2022 de la Nation en décembre 2021, car l'hypothèse d'inflation retenue, si on se concentre sur ce seul critère, était de 1,5%.
Ah oui, effectivement.
Donc c'est extrêmement rare que le Sénat ne vote pas le budget de la Nation. Et vous n'avez pas beaucoup parlé dans les médias de ce genre de choses.
Allez-y, c'est le moment alors.
J'en parle. mais c'est quelque chose de très grave, parce que le budget de la Nation a été monté. C'est un budget de pré-campagne et de campagne électorale. Et là, ce qui se passe, c'est que pendant des années, on est passé, ça coûte rien, c'est l'État qui paye, à quoi qu'il en coûte. Et là, c'est le retour du réel à la suite d'une création monétaire inouïe. Donc on a créé de la monnaie, la Banque centrale a créé de la monnaie. On a pu laisser penser que la production, faire fabriquer des produits, extraire des produits, des matières premières, ne comptait pas. Et là, cette flot monétaire génère une inflation. Et la question de cette inflation, c'est qu'elle touche évidemment les plus pauvres. Elle est effectivement, une fois qu'elle est apparue, très difficile à faire rentrer dans le tube. C'est comme le dentifrice. Et ce qui se passe, c'est qu'on a connu ça à des époques. Et ça s'est traduit par une augmentation des taux d'intérêt. Donc la France n'a plus la maîtrise de ses taux d'intérêt. Donc c'est la Banque Centrale Européenne qui peine à agir. Et vous avez vu les réactions d'autres banques, que ce soit la Banque d'Angleterre ou la Banque américaine, qui agit et qui remonte fortement les taux d'intérêt. Et aujourd'hui, vous avez des spéculateurs qui empruntent en euros, qui placent en dollars et qui gagnent tout simplement de l'argent puisque les taux d'intérêt aux États-Unis sont supérieurs aux taux européens. Et ça veut dire que l'euro par rapport à l'euro, au dollar, par rapport au franc suisse, et a perdu énormément de sa valeur. On est passé à moins de 1 dollar pour un euro, de la même façon pour un franc suisse. Et ça veut dire que tout ce qu'on importe est beaucoup plus cher. Pour la première fois, l'Allemagne est en déficit commercial. Alors la France, c'est habituel, l'Allemagne, c'est une première. Donc, le problème, c'est de traiter les causes. Et là, on est très, très loin de traiter les causes.
Vous avez bien mis l'église au milieu du village, hein, Sébastien Meurant, sénateur du Val d'Oise. Vous avez posé le décor, ça tombe bien. On va écouter, tiens, Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Le gouvernement est prêt à faire des concessions, mais mesurées. Écoutez.
Je souhaite donc que nous puissions avancer de la manière la plus constructive possible dans les heures et dans les jours qui viennent sur ces propositions. Toute proposition peut être améliorée. Et la majorité sera ouverte à toutes les propositions constructives. Simplement, nous n'entrerons pas dans une logique de surenchère. Nous voulons le compromis. Mais le compromis ne s'achète pas à coups de milliards. Le compromis ne se finance pas sur le dos du contribuable. Le compromis ne se construit pas au détriment de nos finances publiques, car sinon, ce ne serait plus la voie du compromis, ce serait la voie de la facilité, et la voie de la facilité n'a jamais été celle de notre majorité.
Voix de la facilité, Bruno Le Maire, Jacques Serret, donc journaliste à Europe 1, je le disais, la préoccupation incontournable des Français, c'est justement cette défense du pouvoir d'achat. C'est pas a priori, Jacques Serret, un sujet sur lequel les oppositions ont le plus intérêt à entraver finalement le gouvernement. C'est un texte qui est très politique et les discussions sont suivies. Faire avancer le texte sans le dénaturer. C'est ça, en fait, l'esprit de cette discussion.
Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est à la fois les oppositions veulent aller plus loin que ce que propose le gouvernement, faire valoir leurs points précis, notamment du côté des Républicains, où on pousse pour bloquer notamment le prix des carburants à 1,50 €, mesure qui semble infaisable et inimaginable pour le camp d'Emmanuel Macron. Donc, en effet, il s'agit à la fois, donc pour le gouvernement d'aller le plus vite possible, pour les oppositions que ça aille vite également pour ne pas porter la culpabilité finalement d'un texte qui n'avancerait pas. Et en même temps, oui, ils souhaitent mettre leurs conditions. Et finalement, ils ont été aussi élus pour ça. Ça a été le souhait des Français de placer ces oppositions-là pour entraver un peu finalement les travaux des députés de la majorité présidentielle. Donc, c'est toute la complexité de ce qui se joue maintenant, finalement. C'est-à-dire à la fois un texte qui doit aller vite face à une urgence économique et des oppositions qui vont tenter de faire avancer leur propre projet.
On entend un président, le 14 juillet, qui parle de compromis en disant qu'il est prêt, qu'il a entendu le message des Français, qu'il est prêt à faire des efforts. On entend Bruno Le Maire parler aussi de compromis. C'est un mot qui revient souvent dans la bouche de nos politiques en ce moment. Et pourtant, on a la sensation que justement, il n'y a pas de compromis possible, quoi.
Oui, c'est ça. Pour l'instant, le compromis, on ne voit pas. En tout cas, le compromis, finalement, aujourd'hui, en tout cas, quand on écoute notamment les Républicains, il ne peut venir que de la part de Bruno Le Maire et des ministres du gouvernement. Pour l'instant, on verra ce qu'ils font. Ça semble inimaginable à leurs yeux de faire quelconque concession, que ce soit aux Républicains, aux Insoumis ou aux RN.
Sébastien Meurant, membre de la Commission des finances au Sénat.
Mais c'est-à-dire que depuis 5 ans, on n'a eu aucun compromis. On a eu un Bruno Le Maire qui était très absent devant les chambres. On a eu un ministre de la Santé qui était également très absent. On a eu des textes qui sont passés en procédure accélérée quasiment tout le temps. On a eu un président de la République qui a supprimé, encore très récemment, le corps diplomatique en ne demandant rien à personne. Donc oui, c'est une révolution culturelle qu'il faut qu'il fasse. Là, c'est à eux de faire des preuves, mais c'est surtout c'est où est-ce qu'ils veulent aller, où est-ce qu'ils veulent emmener le pays. Quand j'entends Bruno Le Maire parler de dérives budgétaires et de dettes, mais on va toucher les 3 000 milliards de dettes. Ce sont eux les responsables de la dette. C'est une politique qui a été suivie depuis des années. Et vous parliez d'énergie tout à l'heure. Mais l'énergie qui explose, c'est le fruit d'une mauvaise politique depuis des années.
Alors là, on parle de compromis et de sobriété actuellement. Alors, vous entendez aussi beaucoup
bien
ce mot dans la bouche
sobriété,
de nos
très bien, mais juste
dirigeants.
Où on va. Moi, j'ai incitatif. Oui, quand à partir du moment où ça devient coercitif, non, les Français sont perclus de normes, de règles, de contraintes. Et là,
est-ce qu'ils n'ont pas justement compris depuis la crise sanitaire, les Français, qu'il fallait faire des efforts? Ils sont prêts à quand même avoir leur liberté de plus en plus réduite. Hein, preuve avec toutes les contraintes liées à la crise.
Aller par rapport à ces contraintes. Lorsqu'on détruit EDF, qui était un outil mondialement envié et qu'on cède à des lobbying, des lobbyistes verts ou allemands et autres, et qu'on détruit de l'intérieur cette formidable entreprise qui produisait une énergie décarbonée, pas chère, et qu'on veut pour des questions d'idéologie libre-échangiste, libre-fériste, pour reprendre un terme d'Allais, fait voter une loi NOM en 2010, et que l'on continue comme ça, jusqu'à renationaliser récemment, c'est annoncé par le président de la République, et qu'on contraint EDF à vendre 25% de sa production à des concurrents qui ne font que du trading et pas de production, au bout d'un moment, il faut bien produire. Et là, le meilleur paquet contre-inflationniste que pourrait prendre le gouvernement, c'est d'arrêter les sanctions vis-à-vis de la Russie. Et ça, ça serait vraiment politiquement... la politique, c'est pas la morale. On a besoin de la Russie, de l'économie russe, et le monde a besoin d'économie russe et de l'économie ukrainienne. Donc là,
donc vous préconisez, vous, de lever les sanctions en partie.
Les sanctions, ça ne fonctionne pas, surtout vis-à-vis d'un pays comme
parce
comme
que le président dit qu'il faut qu'on se prépare à ce que la Russie coupe le gaz. Mais on le sait, on n'est pas complètement dépendant non plus du gaz russe.
Alors l'Europe, si.
Oui.
Et l'Europe, si. L'Europe a plus de la moitié, l'Allemagne plus de la moitié, des pays bien
plus
que
ça. Il y a des solutions alternatives
pas tout de suite, pas pour passer l'hiver. Il faut arrêter de mentir aux Français.
Peut-être ouvrir les usines à charbon, vous avez vu,
c'est déjà
dans l'Est,
là,
à Saint-Avold. Pour
l'écologie, et moi je suis très attaché à l'écologie, on est déjà vertueux en France. On est le 26e pays sur la production de gaz carbonique, on est vraiment une économie, on est vertueux. Et on contraint toujours les Français à battre leur coulpe. Donc je voudrais dire, cesser cette politique de la peur. Si on avait une vision d'où on voulait aller, là sur cet aspect inflationniste, là on a absolument besoin sur les marchés mondiaux, et d'ailleurs l'ONU l'a exprimé à plusieurs reprises, qu'on a besoin des grains russes, des grains ukrainiens pour simplement pouvoir nourrir des pays du sud de la Méditerranée. Et nous, nos économies ont besoin de matières premières qu'on ne produit plus et qu'on s'est même interdit de regarder, de chercher. Et je pense aux différents gaz ou aux différentes huiles qu'on peut avoir sur la France, éventuellement en Guyane ou ailleurs.
Revenons sur la loi qui est votée actuellement, enfin qui est discutée actuellement sur le pouvoir d'achat. Il n'y a pas un discours de la peur, là, c'est plutôt des mesures, alors cosmétiques, des pansements, des compresses, appelez ça comme vous voulez, avec le chèque alimentaire, il y en a certaines beaucoup plus profondes aussi. Il y a une vraie remise en cause aussi.
C'est terrible qu'un pays comme la France en soit réduit à faire des chèques alimentaires. C'est vraiment un signal dû.
C'est dangereux pour vous, tous ces chèques. Il y a eu le chèque carburant, le chèque énergie. Aujourd'hui, on a le chèque alimentaire.
Ce ne sont pas des mesures pérennes. Ou sinon, c'est qu'on devient vraiment une économie complètement administrée du tiers-monde. Et que on a des tarifs différenciés en fonction du pouvoir d'achat ou des revenus ou des fiscaux des Français. Donc, jusqu'où on s'arrête ? Parce que demain, effectivement, on peut aussi payer sa santé de manière différenciée. Enfin, c'est très, très grave. C'est le constat vraiment d'un appauvrissement du pays. Et le problème étant, c'est qu'il y a de l'inflation.
Mais c'est le cas. C'est le cas.
Ah ben c'est un réel
appauvrissement
lié à l'inflation, à cette mauvaise politique menée depuis des années. On est quand même un pays où on a quand même 5,5 millions de chômeurs abaissés. Hein. Même si ça a baissé au niveau, effectivement, ces 5 dernières années, on est quand même bien supérieur à notre pays européen. Et surtout, c'est qu'on a, plus de 110 milliards de déficit commercial. Donc la France ne produit plus en France suffisamment de produits et on importe et on va apporter jusqu'à ce qu'on trouve des gens pour nous prêter, des investisseurs pour nous prêter. Et là, on va dépasser les 3 000 milliards de dettes dans un contexte de taux qui vont repartir à la hausse. Ouais. Donc là, ça amène à reconstruire l'État, à choisir ce que fait l'État, à recentrer l'État, pour moi, sur les questions régaliennes et sur les questions du pouvoir d'achat. La première question qui se pose, c'est encourager le travail.
Jacques Serret, à propos justement de ce que dit Sébastien Meurant sur l'énergie, voilà, sur le fait qu'il y ait un discours de la peur. Vous avez la sensation qu'Emmanuel Macron, on l'a entendu le 14 juillet, il était plutôt sobriété, oui, compromis, oui, il était plutôt détendu, on l'a connu plus dur dans sa façon d'aborder justement
le pouvoir d'achat. Oui, on a le sentiment quand même que ça navigue à vue finalement, c'est-à-dire que globalement, c'est des mesures finalement au coup par coup. Il n'y a pas en effet une vision sur le long terme. Il y a eu cette décision d'avoir une stratégie ferme et dure vis-à-vis de la Russie, notamment en termes des sanctions, pas seulement au niveau national, pas seulement au niveau français, mais à l'échelle européenne. Des sanctions contre la Russie. Aujourd'hui, on en subit également les conséquences, finalement. C'était tout à fait prévisible, mais dans tous les cas, on a le sentiment que finalement, ça n'a pas été préparé. C'est-à-dire qu'il y a eu ce coup porté contre la Russie, et c'est comme si finalement on se retrouvait, on n'avait pas anticipé finalement la réponse que pouvait apporter la Russie face à nos sanctions. Et Donc ces mesures pour le pouvoir d'achat arrivent là au milieu de l'été, finalement dans un contexte politique qu'on connaît, des législatives qui a complètement changé la donne au niveau national. Et donc aujourd'hui, oui, mais en même temps, c'est Emmanuel Macron y est contraint, c'est-à-dire à gérer finalement au coup par coup, qui est tout l'inverse de la prévision et de prévoir. Voilà.
Gouverner, c'est prévoir.
Voilà, on va revenir évidemment sur cette loi, ce texte, projet de loi sur le pouvoir d'achat qui est discuté actuellement à l'Assemblée nationale. Il est composé de 20 articles. Ce texte phare est annoncé depuis de longues semaines. Vous savez, alors pêle-mêle, hein, il faut limiter la hausse des loyers, verser une aide alimentaire, on en a parlé de rentrée, de créer une indemnité carburant conditionnée, de maintenir le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, de supprimer la redevance audiovisuelle, de revaloriser les bourses des étudiants et le point d'indice des fonctionnaires, ainsi que les retraites et les prestations sociales. Écoutez ce que dit Clémence Guette, elle est vice-présidente du groupe LFI-NUP, députée du Val-de-Marne, et elle s'est exprimée à l'Assemblée cet après-midi. Selon elle, ce projet de loi n'est pas en faveur des Français.
L'État a un double discours en la matière. Pour les médias, pour les Français, officiellement, vous affichez dans le titre de nobles intentions, des mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Dans ce projet de loi, en vérité, vous organisez sciemment, méthodiquement, la diminution du pouvoir d'achat des Français. Votre projet est dangereux d'abord, car il donne un blanc-seing aux entreprises pour ne pas augmenter les salaires. Vous préférez des petites primes, défiscalisées, une fois de temps en temps, ça serait suffisant. Mais que demandent les syndicats aujourd'hui, tous les syndicats? Ils demandent des salaires. Et quel compromis faites-vous? Quel compromis bâtissez-vous avec eux? Aucun compromis.
Aucun compromis, selon Clémence Guetté, vice-présidente du groupe LFI-NUP, députée du Val-de-Marne. Sébastien Meurant.
L'attitude du gouvernement doit changer. On va voir, ils sont tout neufs, ils viennent d'arriver. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même que les auditeurs comprennent, c'est que lorsqu'on augmente le point d'indice de 3-4% et que l'inflation 3,5, est de 3,5%, que l'inflation est de 6-7-8%, il y a évidemment une perte de pouvoir d'achat. Et surtout, c'est que le point d'indice, il est payé par les collectivités locales. Ou lorsque l'on bloque les loyers, ça ne coûte pas cher l'État, ça coûte effectivement de l'argent aux propriétaires qui, eux, vont être moins incités à investir dans l'immobilier. Et on voit avec l'augmentation des taux. En fait, c'est vraiment un manque de vision et un manque de projet pensé global. Et on aurait besoin de ça. Et effectivement, on voit bien que ce gouvernement est démuni par cette nouvelle donne politique. Il pensait avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, continuer à faire ce qu'ils avaient fait, fonctionner par ordonnance, décider. Et après, peu importe ce qui arrivera dans les rues de France et de Navarre. Et là, il y a un changement puisqu'ils n'ont plus la majorité absolue. Donc, ils sont obligés d'entendre et d'écouter et trouver un compromis. Bah, ils ont quand même la majorité relative.
Oui, c'est ça.
C'est la Clémence de Guste est au président de... justement de faire des propositions.
Alors pour arriver à des compromis, puisque vous en parlez en particulier avec la droite, la majorité a proposé le relèvement du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires de 5 000 à 7 500 euros. Un rappel des années Sarkozy, le célèbre « travailler plus pour gagner plus ». Et le chef de l'État, Jacques Seret, a multiplié vraiment les petits clins d'œil à la droite lors de son interview du 14 juillet.
Oui, mais en même temps, il est dans cette stratégie. C'est-à-dire qu'après être allé à la chasse aux voix de gauche, notamment durant l'entre-deux-tours de la présidentielle, puis la campagne des législatives, il se rend compte finalement que son électorat, durant ces 5 dernières années, s'est droitisé. Du moins, il a changé d'électorat. D'abord élu sur les voix des électeurs de François Hollande en 2017. Finalement, il est allé récupérer les voix de droite, ceux de François Fillon notamment par la suite. Et finalement, on s'est rendu compte un peu de cette erreur de stratégie qu'il y a pu avoir durant à la fois l'entre-deux-tours et la campagne des législatives.
Mais il reste dans le même temps.
Ça reste dans le même temps. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une nouvelle donne, quelque chose qui a changé, un retour finalement un peu, pas aux sources, mais en tout cas, il y a une prise en compte davantage parce que finalement, les soutiens dans l'hémicycle qu'il peut avoir sont surtout, et notamment parmi les Républicains aujourd'hui.
Alors, pas question en revanche pour ce gouvernement de reprendre la proposition choc des Républicains. Vous en avez parlé tout à l'heure, Jacques Seret, ramener le prix de l'essence à 1,50€ le litre, ça paraît complètement dingue. J'ouvre les guillemets, hein, ça fait partie des lignes rouges parce que ça fait exploser les dépenses publiques, dixit Bruno Le Maire, c'était lundi. Ouais.
Alors, Emmanuel Macron ne fait pas une politique de droite sur aucun des plans, que ce soit sur le régalien évidemment, sur l'éducation nationale et sur l'économie. On est le pays où il y a le plus de dépenses publiques.
Oui.
Donc tout ça, ça me fait bondir à chaque fois que j'entends ça, parce que tout ça c'est faux. Est-ce qu'on a diminué les normes? Est-ce qu'on a simplifié tout ça? Bien sûr que non. Donc la mesure sur le pouvoir d'achat lié aux heures supplémentaires, c'est simplement la méritocratie. Plus on travaille, plus on incite à travailler. Et là, quelque part, c'est une mesure effectivement qui est demandée par la droite depuis des années, mais c'est une mesure de bon sens. C'est une mesure incitative où on parle de dégagement d'une certaine partie du monde employé vis-à-vis de l'entreprise. Et bien là, c'est de dire que vous travaillez en heures supplémentaires, vous ne payez pas d'impôts, mais l'entreprise paye moins de cotisations sociales. C'est dans une période où les entreprises ont aussi du mal à recruter, c'est une mesure qui est quand même de bon sens et qui devrait rallier pas seulement les LR, et j'espère bien l'ensemble des personnes qui veulent vraiment créer du pouvoir d'achat pour les Français qui travaillent. La question qui se pose, c'est le décalage entre ceux qui travaillent et ceux qui vivent d'assistanat. Parce que là, j'ai pas l'impression que cet écart s'accroisse. Alors que justement, il faut faire en sorte que ceux qui travaillent soient mieux considérés que ceux qui vivent d'assistanat.
Oui, alors après, il a aussi, c'est un autre sujet, mais la réforme justement des aides... des allocations chômage aussi est en cours. Enfin, il y a un vrai projet de réhabiliter.
Alors, petite réforme.
Le goût de l'effort. Hein,
Le goût de l'effort, c'est très bien. Après, c'est comment concrètement on met des systèmes qui ont du sens, qui permettent effectivement de gagner en termes de pouvoir d'achat. Le mérite par rapport au prix de l'essence ou du gasoil, c'est que c'est simple à mettre en place. Il y a eu la taxe flottante qui a existé à une époque.
Mais 1,50€ le litre, quand même, c'est ambitieux.
Mais combien de taxes dans tout ça? Combien de taxes dans tout ça? Le problème, peut-être, c'est que là, le gasoil est raffiné pour beaucoup en Russie et qu'on risquerait d'avoir aussi des pénuries de gasoil, ce qui est déjà arrivé à quelques moments. Et là, cet hiver, je vous rappelle quand même que Mme Pompili, il y a plusieurs années, nous parlait de coupure de courant, voire d'éventuellement de blackout. Et là, on était avant la guerre de Russie et d'Ukraine. Donc, en fait, c'est vraiment un manque d'anticipation sur ces questions qui est essentielle. Et là, il suffit d'écouter, de reprendre ce que pouvaient dire les Proglio, enfin, tous les spécialistes de l'énergie. Et là, c'est vraiment, on touche à un bien commun, un bien essentiel. Et là, cette question de vouloir faire de la concurrence sur ces monopoles, je dirais presque naturel. Et quand il y a des monopoles qui ne fonctionnent pas, on peut se dire qu'il y a des choses à améliorer, de mettre de la concurrence. Mais là, on avait Gaz de France, on avait EDF. Et là, moi, je suis un libéral, parce que je pense que c'est la liberté qui permet de créer de la richesse. Mais là, de fait, les investissements faits par nos prédécesseurs dans cette belle entreprise qui permettait d'avoir... Eh bien, on l'a saboté, on continue à saboter. On a un président de la République qui a dû en même temps fermer Fessenheim, 1,8 giga, et qui, pour faire plaisir aux Verts à l'époque, et qui aujourd'hui est contraint d'importer de l'électricité. Vous regardez ce que diffuse RTE, de l'électricité produite au charbon en Inde d'Allemagne. C'est quand même pas terrible.
Ouais, et Jacques Seret, à propos justement de cette indemnité carburant pour les travailleurs, hein, qui remplacera progressivement la remise de 18 centimes par litre de carburant, là aussi, voilà, il essaye, quoi.
C'est-à-dire que c'est pas tenable. C'est pas possible de donner 18 centimes sur chaque litre de carburant indéfiniment. Donc, en effet, il s'agit
d'y mettre fin.
En même temps, toujours en même temps, de trouver quelque chose d'autre qui soit peut-être un peu plus tenable sur la durée et en même temps qui ne crée pas une certaine forme de colère avec l'arrêt justement de cette subvention, de cette aide de 18 centimes par litre. Donc, oui, mise en place progressive en même temps de l'arrêt des 18 centimes, mise en place progressive de cette indemnité carburant et qui serait donc de plus visée, plus adaptée finalement à la fois pour les gens qui en ont besoin du point de vue de leurs ressources.
Ce serait et du sur mesure.
Sur le fait qu'ils en ont besoin pour se déplacer et pour aller travailler.
Sébastien Meurant,
une usine à gaz,
membre de la commission des finances au Sénat.
Une usine à gaz, encore une de plus. Vous imaginez bien que... Enfin, moi, j'ai un élu dans mon département qui était surpris de voir un chèque lui arriver.
Ah bon?
Mais oui, ben voilà, enfin, il y a des mesures simples. Comment on contrôle ça? Comment on met en place ça? c'est extrêmement compliqué, c'est encore des choses, enfin il faut vraiment, on se souvient des biens essentiels, non essentiels, ça n'a aucun sens, il vaut mieux des règles simples qui peuvent apparaître comme coûteuses, mais au moins tout le monde sait qu'un litre d'essence, de gasoil, c'est composé d'une partie de carburant et l'essentiel c'est des taxes.
Oui.
Donc après évidemment s'il y a plus de ventes de litres de gasoil ou d'essence, eh bien c'est plus de recettes qui rentrent aussi.
Ouais, et la redevance audiovisuelle, qui sera pour le coup...
La redevance audiovisuelle, ça, c'est chaque Français, effectivement, sait combien ça peut lui faire gagner. Ça, plein d'essence, deux pleins d'essence. Un plein pour une grosse voiture
que vous
avez et deux pleins d'essence.
Télé, ouais, c'est ça. Voilà. Et pour vous, c'est pareil, encore une fois, c'est des pansements ou c'est quelque chose...
Ouais.
Parce que c'est quelque chose de concret, il y a eu la taxe d'habitation.
Oui.
Voilà, qui va donc disparaître cette année, et cette redevance audiovisuelle, promesse de campagne tenue.
La taxe d'habitation, c'est des ressources qui étaient... C'est une perte d'autonomie fiscale des collectivités. Voilà, boum, c'est de la dette en plus. Parce que s'il y avait eu en face des économies, j'aurais dit bravo. Sauf qu'on a créé de la dette en plus.
Oui.
Donc c'est des fausses économies. Parce que la dette, on finit malheureusement par la rembourser un jour. Mmh. Et on la rembourse par l'inflation, par la disparition de la monnaie et par la guerre. Ou par un mélange des trois, à travers l'histoire. Et là, l'inflation, c'est un moyen de renier évidemment les économies de ceux qu'on a. Puisqu'il y a une perte de pouvoir d'achat, c'est une perte de valeur de la monnaie. Et c'est un moyen aussi, eh bien, si on n'indexe pas au niveau de l'inflation et les retraites et les points d'indice des fonctionnaires et tout ce qui est type rente, eh bien évidemment, on perd du pouvoir d'achat. C'est un moyen aussi de dévaluer la dette de l'État. Mais surtout, la question qui se pose, on ne meurt pas de trop de dettes, on meurt de plus pouvoir en faire. Et là, lorsqu'on a un programme de dette mais colossal, et on va examiner le budget, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont nous proposer.
Dans la foulée, effectivement, dès le 21 juillet.
On n'est pas encore en vacances, loin de là. Parce que qui est-ce qui va nous prêter et combien ça va nous coûter? Un point à 10 ans, c'est 40 milliards. Donc vous imaginez, on avait bâti le budget avec 270 milliards d'emprunts. C'est inédit tout ça.
Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage très intéressant. Sébastien Meurant, sénateur du Val-d'Oise, membre de la Commission des Finances au Sénat. On suivra, bien sûr, avec vous. Merci, Jacques Serret, du service politique d'Europe 1, les débats à l'Assemblée nationale. Alexandre Chauveau, Victor Chabert sont là-bas pour nous toute la semaine. On suivra ça dans nos éditions. On reste ensemble, bien sûr, et dans quelques instants, justement, le journal de 19h avec Alexandre Lemaire. À tout de suite.